Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflits. Ravi de vous retrouver après cette pause estivale. Vous avez pu, je l'espère, apprécier les différentes séries d'été que nous vous avons proposées. Et nous reprenons notre rythme habituel d'émission avec également un nouveau numéro de Conflits qui est consacré à l'Angleterre. L'Angleterre, le Brexit continue. L'Angleterre qui demeure un des pays essentiels en Europe et dont le jeu européen tourne autour de l'Angleterre. Un numéro qui est à retrouver en kiosque et sur notre site internet revueconflits.com, site internet sur lequel vous pouvez vous abonner, vous pouvez également acheter nos anciens numéros. Et puis pour ceux qui n'ont pas de kiosque à proximité de chez eux, Conflits peut également être acheté sur les grandes plateformes de librairie, la Fnac, Décitre, Amazon. Vous pouvez acheter Conflits, vous pouvez également retrouver les anciens numéros de Conflits et vous faire livrer sans frais de port selon les plateformes. Donc c'est l'occasion de recevoir Conflits directement dans votre boîte à lettres, surtout pour ceux qui n'ont pas de kiosque à proximité. Nous reprenons donc une nouvelle saison de nos émissions de podcast Conflits, une émission qui va être consacrée à un sujet d'histoire militaire. Nous allons partir en Indochine. En Indochine, dans les années 1940-1950, et voir un petit peu ces éléments d'histoire militaire, cette guerre d'Indochine qui commence à s'estomper dans les mémoires et dont il est intéressant de revenir sur ce sujet. Pour parler cette semaine de la guerre d'Indochine, je reçois Chloé Mazero. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes doctorante en histoire, après avoir réalisé un master sous la direction d'Olivier Forcade, qui était consacré aux lieutenants en Indochine, et votre thèse et la prolongation de votre mémoire de master. Et je souligne aussi auprès de nos auditeurs que vous avez réalisé plusieurs podcasts avec des anciens combattants d'Indochine qui peuvent être retrouvés sur SoundCloud, puisque dans le cadre de vos travaux de recherche, vous avez interrogé beaucoup de personnes et vous les avez enregistrées avec leur accord, bien évidemment. Et donc c'est l'occasion aussi pour ceux qui voudraient trouver des témoignages d'officiers ou de sous-officiers, d'aller les écouter et de voir, enfin de les entendre raconter leur guerre d'Indochine. Alors le sujet de votre mémoire et la prolongation de votre thèse porte sur les lieutenants en Indochine entre 1945 et 1954. Pourquoi avoir choisi un tel sujet? Qu'est-ce que ces lieutenants ont d'intéressant et qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur l'histoire militaire?
À l'origine, je souhaitais travailler sur les Français qui ont vécu en Indochine pour comprendre quel était le quotidien dans une colonie comme l'Indochine. Et finalement, ce sujet n'était pas assez militaire, donc j'ai réorienté tout mon cadrage. Et je me suis demandé qui de plus intéressant, quelles lunettes je pourrais prendre en tant qu'historien pour regarder cette guerre à travers. Et bien sûr, j'ai pensé aux jeunes lieutenants. Et donc j'ai d'abord cherché à travers ces jeunes lieutenants, et puis plus précisément en lisant de nombreux témoignages, je me suis rendu compte qu'il existait une expérience qui n'avait quasiment pas été abordée par les historiens, qui est celle du commandement d'unités autochtones. Alors ça peut être lieutenant en supplétif, être lieutenant dans une unité de béret blanc, de la Légion étrangère, ou encore dans un commando. Et c'est une expérience qui est très spécifique à la guerre d'Indochine, on pourrait presque dire endémique, et qui n'avait jamais été abordée sous l'angle donc, du commandement et de l'expérience de guerre en elle-même. Donc j'ai cherché d'abord de nombreux témoignages, et c'est vraiment le cœur de mon sujet, recouper les témoignages sous une forme presque d'anthologie. Et puis après j'ai cherché des anciens, bon il n'y en a plus beaucoup, donc j'ai réussi à en interroger certains, mais pour essayer voilà, de retracer vraiment l'expérience du jeune lieutenant, et non pas une synthèse à travers les notes de service un peu trop objective.
Donc vous avez réalisé ce qu'on appelle un peu pompeusement une prosopographie, c'est-à-dire étudier le profil de ces lieutenants, comment ils ont été formés, comment d'où ils viennent aussi, leur sociologie française. Enfin, quels sont ces lieutenants? Quelles sont les conclusions auxquelles vous avez abouti quand on étudie ces lieutenants? Est-ce que ce sont tous des Saint-Cyriens? Il y avait aussi des officiers, des officiers des civils qui ont été engagés en Indochine. Donc, qu'est-ce que nous apprend cette étude des lieutenants?
C'est justement toute la complexité de cette étude, parce qu'il y avait ce que l'on appelait des EOR, les élèves officiers de réserve. donc des jeunes hommes qui se sont engagés soit à l'issue de leur service militaire, soit comme cela en tant qu'officier, et qui se sont retrouvés en unité et qui sont partis pour un séjour de 24 mois. Mais il y avait aussi des jeunes Saint-Cyriens, alors certains sortis d'école préparatoire, de classe préparatoire, et d'autres qui avaient vécu par exemple la résistance pendant les années 40. Et tout cela, tous ces jeunes hommes se sont retrouvés dans une même promotion, dans un même amalgame à Coëtquidan, donc en 45, puis par la suite au fur et à mesure de la reconstruction de la nouvelle école à Coëtquidan. Et d'autres ont été formés durant la Seconde Guerre mondiale dans différentes écoles que j'ai également cherché à étudier. Donc par exemple l'école de Churchill, mais aussi à Aix-en-Provence, juste avant que les Allemands n'envahissent le sud de la France. Et aussi l'école militaire interarmes de Tongues, qui a été à l'origine ce que je souhaitais étudier, mais je n'avais pas assez de ressources primaires pour en faire toute une étude, et qui est l'école des officiers français en Indochine.
À quoi sert le lieutenant dans cette guerre d'Indochine ? Quel est son, d'un point de vue tactique, quel est son rôle ? D'ailleurs, est-ce que celui-ci a évolué aussi au cours de la guerre ?
Le lieutenant a une place vraiment très particulière, et je pensais à une citation du général Fuhr quand il préface l'un des témoignages que j'ai étudié. Il explique que le lieutenant est justement tellement proche de la situation tactique qu'il a comme des œillères et qu'il ne voit pas ce qu'il se passe autour, parce qu'il est concrètement sur le terrain, mais il n'a pas forcément conscience de la vision globale de la chose. Et les lieutenants que j'ai étudiés se sont retrouvés dans des situations très particulières, comme par exemple chef de poste au fin fond de la jungle. Et quand on est chef de poste, commandant de compagnie, on n'a pas trop conscience de ce qui se passe à une échelle supérieure, ou alors au sein d'un commando. Donc vraiment, c'est un maillon essentiel de la hiérarchie, parce que le lieutenant est d'autre part le lien entre la troupe et les officiers supérieurs. Les officiers supérieurs qui n'ont d'ailleurs pas souvent conscience de ce qui se passe concrètement sur le terrain, et la troupe qui n'a absolument pas conscience de ce qui se passe dans les bureaux d'état-major.
Donc il a un peu un rôle de liaison entre les deux parties, quoi, on va dire la tête et la base.
Exactement.
Et vous évoquez le cas de lieutenants qui sont des militaires de métier, des militaires d'esprit, puis il y a tous les civils qui ont été envoyés en Indochine dans le cadre de leur service militaire. Comment est-ce que eux ont appréhendé cette guerre ? En plus, l'Indochine a des conditions météorologiques très très pénibles. Il fait extrêmement humide, très chaud. Donc, pour des gens qui ne sont pas issus du rang de l'armée, ça a dû être un choc psychologique et physique extrêmement violent.
Justement, c'est ce que j'ai essayé d'étudier à travers mon mémoire. Est-ce que ces jeunes lieutenants ont été formés et finalement déformés ou non par cette guerre ? Mais surtout, on remarque, à travers l'étude de leur formation, qu'ils n'ont pas du tout été préparés à ce type de guerre. Préparés physiquement, enfin pas tellement, et encore moins préparés psychologiquement. Si on regarde les programmes scolaires, par exemple, à Coëtquidan, alors certes, ils reçoivent les bases des classes pour être officiers, mais ils rejouent la plupart du temps ce qu'on a déjà vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Ils rejouent le débarquement, ils rejouent certaines batailles, mais ils ne sont pas préparés, par exemple, à la guérilla, ou à être chef de poste, etc. Et encore moins pour les élèves officiers de réserve qui arrivent directement en unité. Le seul centre de formation qui a pu en préparer certains, c'est-à-dire les officiers coloniaux, c'était le centre de Fréjus, le centre pour les troupes coloniales, où le général Fourcade, colonel à l'époque, qui connaissait déjà l'Indochine, faisait des stages de formation pour les préparer concrètement à ce qu'ils allaient vivre sur le plan du terrain et du climat également.
Et dans les témoignages que vous avez recueillis pour votre travail, qu'est-ce qui revient ? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement dans la manière dont ils racontent cette guerre ? Parce que autant de personnes, autant de visions de la guerre, évidemment. Mais est-ce qu'il y a des traits communs ? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont gardées qui permettent de tisser une vision un petit peu générale de cette guerre ?
Oui, il y a une chose qui m'a beaucoup marquée, c'est l'étonnement des jeunes lieutenants lorsqu'ils arrivent sur place. Ils sont étonnés non seulement du climat, du terrain en lui-même, des populations qu'ils rencontrent, parce qu'ils débarquent dans un monde qui est complètement différent, non seulement de l'Europe, de la France. C'est une culture, une civilisation qui n'a rien à voir avec la leur. Ils ne parlent pas la langue des soldats qu'ils connaissent. Donc c'est déjà une première découverte. Ensuite, il y a un temps d'adaptation qui est plus ou moins long, selon certains. Et enfin, un temps où, comme le dit le général de Lamotte, un temps de règne. Par exemple, je pense aux chefs de commando, une fois qu'ils sont rodés, qu'ils sont adaptés à leurs hommes au milieu où ils combattent, on peut parler de roi dans leur petit royaume, puisqu'ils commandent, ils surveillent, ils dirigent un espace assez immense dont ils sont les maîtres. Donc c'est vraiment un aspect particulier que j'ai pu noter. Et comme le disait le lieutenant Guy Lebrun, les premiers mois, on s'étonne de tout. Et puis, les 6 derniers mois, on ne s'étonne plus de rien.
Quelles sont les relations, les rapports entre ces lieutenants et les populations autochtones, populations indochinoises ? Est-ce qu'il y en a d'abord des relations humaines, militaires ? Et si oui, comment est-ce qu'elles sont organisées ?
Alors, tout dépend dans quelle unité est le jeune lieutenant dont on parle. Par exemple, s'il est chef de poste, il a bien sûr bien plus de relations qu'un lieutenant qui est, par exemple, chef de section de béret blanc dans la Légion étrangère. Parce que le chef de poste a davantage de contact avec les villages d'alentour, puisqu'il gère non seulement son poste, mais également toutes les histoires de villages qui l'entourent. Il devient un petit peu la nouvelle référence à leur politique pour émettre des jugements, pour gérer les histoires. C'est ce que raconte justement le général de la Motte, qui se retrouve à faire accoucher les femmes du village ou à gérer les petites querelles entre certains hommes. Alors que, par exemple, les lieutenants qui sont dans des unités mobiles croisent bien sûr les populations en allant de village en village, mais ont sûrement moins de contact avec eux que ces autres lieutenants.
Les lieutenants sont tous français ou est-ce qu'il y a également des indochinois qui sont intégrés dans l'armée ?
Progressivement, l'armée française a essayé de former les Vietnamiens en créant des écoles, par exemple à Dalat, pour former une armée nationale. C'était le cas au Vietnam, au Cambodge et aussi au Laos. Je pense par exemple à un lieutenant qui a beaucoup travaillé avec le jeune sous-lieutenant Lathan, qui est aujourd'hui général Lathan, et qui était un lieutenant vietnamien qui a été formé en Indochine et qui dirigeait lui aussi une section au sein du 5e bataillon de parachutistes vietnamiens. Mais cela s'est fait très progressivement, avec pour objectif que les Vietnamiens se débrouillent par eux-mêmes et face à la progression du Viet Minh en Indochine.
Est-ce qu'on voit également des différences géographiques entre le Nord et le Nord Vietnam où la présence communiste est plus forte et le Sud Vietnam dans le rapport aux populations ou dans la manière aussi, dans la façon dont les lieutenants ont vécu la guerre?
Oui, alors je pense que quand on lit les différents témoignages, être jeune sous-lieutenant ou lieutenant au fin fond de la Cochinchine, ce n'est pas tout à fait la même expérience que le jeune lieutenant qui se retrouve en Pays Thaï ou bien à Dien Bien Phu. Et c'était également le point de complexité de mon étude, puisqu'il était assez difficile d'allier les témoignages de certains qui ont vécu de grandes batailles, par exemple Na San ou Cao Bang, et d'autres qui ont vécu des combats pas plus tranquille, mais dans des zones un peu plus reculées et assez différentes. Je pense par exemple au lieutenant de cavalerie, dont les combats étaient très différents.
C'est vrai qu'en Indochine, on a retenu Dien Bien Phu, qui est l'une des grandes batailles. Mais ce qu'on voit à la lecture de votre mémoire, et quand on connaît un petit peu la guerre indochinoise, c'est qu'il y a beaucoup de temps d'attente, il y a beaucoup d'escarmouches. Mais là, c'est une guerre un peu curieuse, c'est un peu une drôle de guerre. Il y a très peu de combats directs, donc ces lieutenants, ils passent quand même beaucoup de temps à attendre. Ou à tirer un petit peu, ou à changer de terrain, mais ils sont dans une guerre qui est très curieuse, qui était un peu un entre-deux.
C'est exactement ça, et surtout quand on est chef de poste reculé au fin fond de la jungle, et qu'on n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe à une échelle supérieure, on a l'impression que le temps est extrêmement long, qu'on ne comprend pas trop ce qu'on fait là. Je pense par exemple au film Les confins du monde, où on voit bien les soldats français qui se retrouvent perdus, qui attendent, qui se demandent finalement pourquoi ils ont été envoyés là et qui ne comprennent plus le but même de cette guerre.
Et ces lieutenants, est-ce qu'ils ont des relations avec leur famille en France à travers des courriers ou est-ce qu'il y a une censure qui fait qu'ils ne peuvent pas communiquer ?
Alors, au vu des nombreuses lettres que le général Guy Simon a envoyées à son père et dont il a fait un recueil, le courrier était pouvait continuer à être envoyé, bien sûr. Mmh. Mais certains ne disaient pas forcément la vérité. Je pense par exemple au général Lathan qui a menti durant tout son séjour à ses parents et ses parents ont découvert à la chute de Dien Bien Phu qu'il était en fait à Dien Bien Phu. Et il racontait lui qu'il était à Hanoï dans un bureau avec une vie assez tranquille. Donc oui, le courrier continuait mais les délais étaient tout de même assez longs. Donc il faut aussi penser aux familles en France. Je pense par exemple aux fiancés qui attendaient leur futur mari et dont elles n'avaient pas de nouvelles souvent pendant des semaines entières.
Vous avez dit que l'armée du contingent, donc les civils qui étaient envoyés comme classe de militaire, restaient 24 mois. Est-ce que certains sont restés plus longtemps ou se sont préengagés dans l'armée d'active ?
Alors 24 mois, c'est une moyenne de tous les séjours, mais certains ont fait bien sûr plusieurs séjours. Et quand on lit leurs témoignages, on comprend bien qu'un séjour en 1946 n'a rien à voir avec un séjour en 1952, parce que la guerre a changé, par exemple. Et certains EOR, élèves officiers de réserve, ont été activés pendant la guerre. Par exemple, le général Latène, qui a été activé en plein milieu de la guerre de la bataille de Dien Bien Phu, et qui a continué toute sa carrière par la suite jusqu'à finir général.
Oui, vous faites bien de souligner le fait que la guerre évolue, parce qu'on parle de la guerre d'Indochine, or c'est quand même une guerre qui a duré une dizaine d'années. Enfin, si on prend la période 1945-1954, après, on peut peut-être la faire débuter un peu plus tôt, mais enfin, pour la période académique, donc une dizaine d'années de guerre, quels sont les principaux changements, justement, dans cette guerre? Est-ce que c'est une accélération des combats? Est-ce que c'est une guérilla qui a été plus intense?
Alors, au tout début, l'objectif était vraiment de garder la colonie, tout simplement. C'était l'objectif de Leclerc, mais surtout de d'Argentlieu, de maintenir la colonie dans l'Empire. Et puis petit à petit, on a bien compris que face à l'avancée et à la progression du Viet Minh, soutenue progressivement par les communistes chinois, qu'il était impossible de la garder pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons matérielles, parce qu'on n'avait concrètement pas les moyens. Et puis petit à petit, cette guerre s'est ancrée dans le contexte de la guerre froide, et donc, c'était davantage une croisade contre le communisme qu'une guerre coloniale, qui s'est soldée bien sûr par un échec, mais...
Oui, parce qu'après ça aboutit à la guerre du Vietnam, donc c'est presque une guerre qui dure jusqu'au milieu des années 1970. Vous avez cité l'amiral Thierry d'Argentlieu, c'est une figure qui est très intéressante, parce que c'est un moine qui revient dans la marine, il avait quitté, il a eu une grande carrière pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre d'Indochine aussi, c'est une figure assez fascinante aussi de cette période indochinoise.
Oui, et c'est une figure assez controversée selon certains anciens, parce que certains m'ont raconté par exemple cette espèce de querelle entre Leclerc et d'Argentlieu qui n'avaient pas du tout la même vision de ce qu'il fallait faire en Indochine. Leclerc était partisan de maintenir l'Indochine, mais avec une union, mais en laissant les Vietnamiens assez libres. Et il savait qu'à terme, il faudra leur accorder l'indépendance. Alors que d'Argentlieu était, on pourrait dire, de la vieille époque, et comptait simplement garder l'Indochine dans l'Empire. On ne bouge pas et on... voilà. Comme
un peu une vision Troisième République d'assimilation et de vision coloniale, effectivement, des années 1900-1920.
Exactement. Et c'est ce qui est assez complexe à cette époque et dont on ne parle pas assez. C'est qu'on arrive en 1945 où la France doit se reconstruire et on ne sait finalement pas ni ce qu'il faut faire de l'armée française et encore moins de ce qu'il faut faire des colonies. Et certains sont encore dans une logique d'avant-guerre et ne comprennent plus que ce temps-là est passé et que, à terme, les Vietnamiens ont déjà ce désir d'indépendance depuis une dizaine d'années, même plus.
Vous avez évoqué ces lieutenants qui ont exercé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui se retrouvent en Indochine, c'est dans la continuité. Dans les témoignages que vous avez recueillis, comment est-ce qu'ils ont vécu ce passage d'une guerre à l'autre? Parce que les deux guerres sont extrêmement différentes, on n'est pas du tout dans la même manière de faire la guerre.
C'est vrai. Alors, je pense bien sûr à Élie de Saint-Marc, qui est la grande figure que j'ai étudiée et qui revient assez souvent, pour qui la guerre d'Indochine a été en quelque sorte salvatrice et lui a permis de passer d'une période très difficile de sa vie à une grande aventure humaine avant tout. Mais je pense par exemple aussi au colonel Grué, qui lui a vécu la Seconde Guerre mondiale quand il était en classe préparatoire et qui m'a expliqué avoir été profondément dégoûté par la fin de cette guerre, les règlements de compte, notamment les règlements de compte politiques, et qui a trouvé en Indochine un échappatoire, une fraternité, notamment au sein de la Légion, et qui voulait justement s'engager dans l'armée d'Afrique pour quitter cette France qui était en train de se quereller et tomber dans certaines formes de bassesse.
Vous évoquez dans votre mémoire l'expérience du commandement. Ça, c'était aussi quelque chose d'important. C'est vrai que les lieutenants sont un petit peu la première cheville du commandement, notamment pour ceux qui ont continué leur carrière dans l'armée et qui après ont eu des postes d'officiers supérieurs. Quels enseignements ils ont gardés de cette période? En quoi ça a contribué à les façonner aussi pour les autres guerres? On pense notamment à la guerre d'Algérie, mais aussi la guerre froide ou d'autres types d'opérations.
La grande question de ce mémoire était de savoir si les jeunes lieutenants que j'étudiais ont été formés par cette guerre en sortant d'école ou déformés. Quand on lit par exemple le rapport du général Élie, qui est le grand rétexte de la guerre d'Indochine, nombreux sont les officiers à dire que les jeunes lieutenants ont été déformés parce qu'ils ont acquis des compétences et des techniques qui n'ont rien à voir avec ce que l'on fait habituellement sur le terrain. Et donc, En étudiant le commandement en lui-même dans une unité autochtone, on se rend très vite compte que c'est un commandement qui est très particulier, puisqu'on est face à des soldats dont on ne parle pas la langue, donc il faut s'habituer, il faut déjà les apprivoiser. Déjà que commander une section, c'est assez complexe, alors on peut imaginer avec des étrangers sur leur propre territoire pour la libération de leur propre pays. C'est une situation assez particulière. Et puis surtout, quand on est un jeune Français et qu'on ne connaît pas ce milieu, on se retrouve dans des situations parfois assez cocasses. On voit bien que les jeunes lieutenants n'étaient pas équipés pour mener cette guerre sur ce terrain-là, et que certains jeunes Vietnamiens aimaient bien à se moquer de leurs lieutenants qui finalement découvraient la vie. Donc ils ont aussi appris à commander au contact de ces jeunes hommes. Et je pense par exemple au témoignage de Guy Lebrun, qu'il a intitulé son livre « Le lieutenant aux pieds nus ». Et ce titre résume toute son expérience. Il explique bien que progressivement, il a abandonné tous ses réflexes européens pour s'adapter profondément au territoire indochinois. Et donc, petit à petit, par exemple, il a simplement enlevé ses chaussures pour être, comme les soldats vietnamiens, marcher dans la rizière, pieds nus. Il a aussi abandonné tous les signes distinctifs qui pouvaient être des repères au combat, par exemple ses grades de lieutenant qui brillaient au soleil. Donc il a fini dans une tenue finalement de commando noir. Et quand il a croisé son commandant, celui-ci s'est étonné, il lui dit « Mais que faites-vous dans cet accoutrement? Ce n'est pas une tenue de combat ». Et c'est là où on voit toute la différence entre le haut commandement dans les bureaux, qui n'a finalement pas compris grand-chose à ce qui se passe sur le terrain, et les jeunes lieutenants qui sont dans la plus grande adaptation possible pour mener cette guerre.
Ce que l'on voit aussi à travers ce que vous dites, c'est que finalement toute guerre est différente, et il est à peu près normal aussi que la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie soient des guerres différentes dans leur nature et leur manière d'être faites, et que finalement le rôle d'un lieutenant ou le rôle d'un officier, c'est de s'adapter aux guerres. C'est-à-dire, d'un côté d'apprendre, et de l'autre savoir aussi s'adapter au nouveau terrain où il est et aussi aux évolutions de la guerre. Et ça, c'est le lieutenant, est-ce que ça a été pour eux aussi ce terrain d'apprentissage-là, enfin, cette adaptation à la guerre qui évolue et qui n'est pas la même selon les époques et selon les lieux où elle est faite?
La plupart des anciens que j'ai pu interroger m'ont bien expliqué que ce qu'ils ont vécu en Indochine, ils ne l'ont jamais vécu à nouveau par la suite. Parce qu'ils ont eu on leur a accordé, par exemple, des capacités de commandement, des situations de commandement qu'ils n'ont jamais retrouvées ensuite en Algérie, puisqu'ils étaient beaucoup plus libres, ils avaient une certaine liberté d'action assez unique. Comme je le disais tout à l'heure, quand on est chef de poste, on est vraiment le maître de son petit royaume, ou le chef de son commando, c'est exactement la même chose. Et c'est par exemple ce qu'explique le général de Lamotte lorsqu'il était jeune lieutenant. Voilà, cette capacité d'adaptation, cette liberté d'action, il ne l'a jamais retrouvée par la suite.
Alors je vous pose la question maintenant, mais j'aurais peut-être dû commencer par là. Quand on parle de ces lieutenants, quel âge ont-ils à peu près? Ils ont 25 ans, la trentaine?
Alors la moyenne est située juste en dessous de 30 ans, il me semble que c'est
26, 28. Ouais, voilà. D'accord. Oui, donc c'est des gens assez jeunes, enfin qui ont une expérience de la vie qui est quand même assez assez faible.
C'est vrai, on dit souvent jeune lieutenant, et c'est ce que je disais très souvent dans mes mémoires, mais en regardant de plus près, oui, certains sont quand même un peu plus âgés, donc c'était une moyenne. Et ils ne sortent pas tous de Saint-Cyr immédiatement, puisque comme je disais, certains ont déjà eu une expérience auparavant.
Alors quand on parle de la guerre d'Indochine, il y a évidemment les films de P.H. Hohendorfer, enfin les romans d'abord, et puis les films ensuite, qui ont un petit peu de sacraliser la guerre d'Indochine avec les c'est un petit peu le maître étalon maintenant la 317e section et puis le crabe tambour des évocations qu'il peut avoir de la guerre d'Indochine. Est-ce que dans ce que vous avez étudié à travers ces lieutenants, la 317e section par exemple, c'est quelque chose qui est réaliste, et Schoendorfer lui-même d'ailleurs a été soldat en Indochine, ou est-ce que c'est une vision un petit peu arrangée ou mythifiée?
Non, c'est très concret, et le sous-lieutenant Torrens aurait très bien pu être n'importe quel sous-lieutenant dont j'ai lu le témoignage pendant 2 ans, puisqu'il est, comme j'expliquais tout à l'heure, vraiment ce jeune sous-lieutenant qui débarque, qui ne connaît rien à l'Indochine, qui est encore plein d'idéal, et qui pense que l'on peut mener une opération voilà, en laissant les blessés, en venant les chercher plus tard, qui est encore un peu tout feu tout flamme, et qui progressivement s'adapte, et il s'adapte au contact de ses soldats et au contact de ses sous-officiers, comme Wilsdorf, qui sont un petit peu plus aguerris, on va dire, à cette guerre, et qui peuvent lui transmettre leur expérience.
Et ils ont des frigos aussi pour transporter le pastis au frais, ou...
Non.
Ça, c'est bien l'invention de Schoendorfer.
Je ne sais pas si... j'ai déjà entendu une histoire assez semblable. Je ne sais plus dans quel témoignage, mais en tout cas, le général Lathan m'a raconté une petite anecdote lorsqu'il était à Dien Bien Phu, et que vous pourrez écouter dans son témoignage, où son lieutenant lui a fait traverser tout le camp retranché pour apporter une lettre dont il ne connaissait pas le contenu. Et lorsqu'il est arrivé à l'autre bout du camp, dans le PC, le poste de commandement des supérieurs, il s'est retrouvé face à des capitaines et commandants qui étaient... avec un ricard et des glaçons. Et ça l'a fortement marqué en plein milieu de la bataille de Dien Bien Phu. Tout est possible.
Alors justement, cette bataille de Dien Bien Phu, est-ce que l'expérience qui a été accumulée par les lieutenants, est-ce qu'elle a été utile dans cette bataille, où on est vraiment sur un schéma complètement différent et donc vraiment autre de ce qui a pu être vécu par ailleurs dans le reste de la guerre?
C'est vraiment un cas particulier de cette guerre. Et la plupart le disent, nous n'étions pas prêts à ce genre de combat, puisque certains avaient par exemple simplement mené des opérations dans les rizières, où c'était des surveillances d'axes, des ouvertures de routes. Et là, on se retrouve clairement dans des tranchées sous les obus, donc ça n'a vraiment rien à voir. Et par exemple, le sous-lieutenant Lathan le raconte parfaitement. Simplement, le fait d'être parachuté sur ce camp retranché, pour lui, c'est un grand changement, et il débarque, il dit exactement, j'ai l'impression d'être à Verdun, et on ne m'a pas préparé à ça. Et il se demande quel est le fou qui a pu les envoyer dans ce genre de situation.
Alors il y a la question ensuite du retour, d'ailleurs vous terminez votre étude par cela, hein, ce fait qu'il faille quitter l'Indochine et revenir. On peut imaginer des sentiments assez mitigés. Alors ça va dépendre là aussi du moment où les gens sont quittés l'Indochine pour revenir, évidemment, mais notamment ceux qui sont partis à la fin, au moment où l'Indochine devient indépendante, il y a dû y avoir peut-être un peu de ressentiment, de nostalgie ou de tristesse de quitter malgré tout ce pays dans lequel ils avaient passé beaucoup de temps.
C'était aussi la tristesse d'être incompris, je pense. Incompris lorsqu'on rentre en métropole et que l'on n'est pas spécialement accueilli, ou du moins qu'on est presque... parfois insulté, donc c'est une situation très difficile. Et puis il faut aussi prendre en compte tous ceux qui ont fini dans les camps Viet Minh et dont on parle finalement très très peu, puisque certains ont passé des mois, voire des années. Et c'est un choc post-traumatique très important et qui est très très peu abordé et qui pourtant est du même ressort que les camps de concentration nazis par exemple, puisque la mortalité était bien plus élevée dans les camps Viet Minh.
Et effectivement, vous avez raison de le souligner, parce que c'est un élément dont on parle très peu, et les états, enfin les situations physiques et psychologiques de ces soldats étaient dramatiques dans ces camps. Et la question du retour, c'est aussi la réinsertion dans la vie civile. Ça, c'est des choses dont ils parlent aussi dans leur témoignage. Le retour via le passage de l'extraordinaire à l'ordinaire, c'est toujours un moment difficile.
Alors certains n'ont pas vraiment eu le temps de se réadapter à la vie française et à la vie en garnison dans leur unité, puisqu'ils sont directement repartis en Algérie pour une guerre qui était assez semblable et sur le plan des questions d'indépendance des colonies, mais finalement très différente, puisque ce n'étaient pas du tout les mêmes populations ni les mêmes enjeux. Donc certains n'ont pas trop eu le temps, voilà, de réaliser. En tout cas, c'est le cas de la plupart des témoins que j'ai pu enregistrer.
Et justement, sur l'Algérie, enfin, c'est peut-être un autre sujet, je ne sais pas si vous l'avez étudié, mais là, dans les témoignages que vous avez recueillis, est-ce qu'ils évoquent les différences qu'il y a pu y avoir entre la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie qu'ils ont connue?
Oui, certains précisaient que c'était vraiment très différent, déjà sur le plan du commandement, puisque certains ont commandé des Français, donc par rapport au commandement d'unités autochtones, comme je l'étudiais, c'était, voilà, ça restait du commandement, mais c'était très différent. Et puis, ce n'était plus le même contexte, et puis certains sont aussi montés en grade. Donc, entre un jeune lieutenant sorti d'école et finalement un jeune capitaine, le rôle n'est plus tout à fait le même, et ni le contexte.
Alors, le titre que vous avez donné à votre mémoire, c'est la figure de Hong Hai. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce en indochinois, mais c'est quoi exactement ce Hong Hai qui vaut l'honneur d'être mis dans votre titre?
Hong Hai, ça veut dire « monsieur de » en vietnamien, pour les deux barrettes des lieutenants. Donc j'aurais pu aussi dire Hong Mot pour les sous-lieutenants, monsieur 1. Et c'est le surnom que donnaient les soldats vietnamiens à leur lieutenant, d'une manière assez affective, et aussi parce que voilà, ils n'arrivaient pas toujours à prononcer mon lieutenant, ou voilà, c'était leur façon de l'appeler.
Est-ce qu'il y a eu des liens après la guerre entre les lieutenants et les hommes indochinois qu'ils ont commandés? Ou est-ce que l'indépendance a balayé les relations qui ont, qui avait pu être tissé?
Je pense que c'est vraiment une question très personnelle à chacun. Certains ont réussi à garder contact, d'autres, pour d'autres, la rupture a été beaucoup plus violente, comme le raconte Élie Saint-Marc, par exemple. Il y a vraiment l'impression d'avoir abandonné ces hommes. Le général Latane, par exemple, a gardé contact avec certains, puisqu'il connaît encore tous leurs noms, mais il est aujourd'hui le seul officier survivant de tout son bataillon. Mais c'est assez rare, et puis il faut surtout prendre conscience que, pour les Vietnamiens, la guerre ne s'arrête pas là. Elle continue, puis après, avec l'arrivée des Américains. Et les Français, eux, continuent leur carrière en Algérie, donc les chemins se séparent, mais il semble que peu d'entre eux ont gardé contact.
Ça a été un moment, effectivement, mais... La vie et l'histoire a suivi son cours après. Merci beaucoup, Chloé Mazero, d'être venue à notre micro pour nous présenter ces lieutenants, le rôle de ces lieutenants dans la guerre d'Indochine. Et puis bon courage pour votre thèse et pour les années qui s'annoncent. Et on pourra aussi connaître beaucoup plus sur le rôle de ces lieutenants et puis sur cette guerre d'Indochine dont les recherches historiques s'intensifient. Il y a encore beaucoup de choses à faire et à connaître pour mieux l'appréhender. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve très bientôt.